Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Il est 6h46 sur France Culture, voici donc les enjeux internationaux et on parle aussi des réfugiés dans l'émission avec une question, l'Europe abandonne-t-elle le droit d'asile ?
Et oui, donc journée mondiale des réfugiés, 24 500 000 personnes en 2017, l'ombre de la décomposition aussi sur l'Union européenne après l'épisode de l'Aquarius. Alors l'Union paiera-t-elle pour son unité en resserrant le droit d'asile ? Bonjour Hélène Thiollet.
Bonjour.
Merci d'être venue, vous êtes chercheuse au CNRS, série Sciences Po, auteur notamment de Migration en Méditerranée avec Catherine Vitol de Venden, édition du CNRS. Alors concernant ce droit d'asile, le document a fuité hier, en tout cas un projet de plateforme régionale de gestion des flux en préparation. Sous la pression, l'Union européenne s'apprête donc à réviser sa politique migratoire face à la perspective d'un axe des volontaires anti-migrants autour du groupe de Visegrad. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont tenté hier de trouver un consensus pour le sommet européen fin juin, mais on s'oriente à minima vers la poursuite de l'externalisation des demandes d'asile hors de l'Union européenne, même si celles-ci sont en baisse de moitié en 2017, 650 000. En tout, la poussée à droite de l'Autriche, Italie et CSU allemande pèse, on le voit, sur la politique d'accueil. Et la voie est d'autant plus étroite pour l'Union européenne qu'elle est désormais prise entre les critiques des populistes et celles du HCR, au Commissariat aux réfugiés, agence de l'ONU. Votre commentaire peut-être, Hélène Thiollet, sur cette fuite, hein, document Reuters hier, et ce projet de plateforme régionale donc pour gérer les migrants, grossièrement triés entre les migrants économiques, dit le document, et ceux qui ont besoin d'une protection internationale. C'est la poursuite d'une politique déjà engagée, un durcissement selon vous ?
C'est absolument la poursuite d'une politique déjà engagée. Elle remonte maintenant à au moins aux accords de Cotonou signés en 2000 qui créent une coopération avec les pays ACP, Afrique-Caraïbes-Pacifique, autour de la gestion des flux migratoires, entre autres. Et avec l'organisation d'un marchandage qui échange de l'aide au développement contre une fonction de police des frontières exercée hors de l'Union européenne par notamment les pays d'Afrique subsaharienne et les pays du Maghreb qui sont devenus le front obstacle aux flux migratoires subsahariens vers l'Union européenne.
Alors continuité, ce qui est peut-être étonnant avec cette annonce quand même, c'est qu'on aurait pu se dire c'est un peu la ligne rouge finalement, cette externalisation sur les côtes nord-africaines, c'est-à-dire la Libye, disons-le, des centres de tri des migrants, puisque c'était la proposition de Matteo Salvini la plus dure. Il semble qu'elle fasse consensus maintenant.
Alors, encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'une nouveauté. On se rappelle la politique qui avait été menée par Silvio Berlusconi, dont Matteo Salvini s'inspire largement et pour sa politique migratoire et pour sa politique envers les populations roms en Italie. On le voit aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une grande continuité. Ce qui est nouveau, c'est que cette politique d'externalisation des frontières pour le contrôle des flux migratoires touche aussi maintenant des populations de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et en fait, ce qu'a amené de nouveau la crise de l'asile en Europe autour de 2014-2015, ça a été justement l'inclusion de ces populations fragiles et persécutées dans ce grand dispositif de containment ou d'endiguement des flux migratoires vers l'Union européenne.
Alors, faudrait peut-être distinguer, il y a des mesures de refoulement global de sans-papiers, donc là, on ne parle pas forcément de réfugiés ou personnes ayant accédé au statut de réfugié, mais il y a eu plusieurs mesures, notamment de rétorsion prise par certains pays de l'Union européenne, de saisie financière en raison des coûts, dit-on, que coûte un réfugié. Ça s'est passé en Autriche, ça s'est passé au Danemark. Saisie des téléphones portables également pour pouvoir les tracer au nom de la recherche de réseaux de passeurs et d'une bonne entrée. Qu'est-ce que ça constitue, ces mesures, par rapport au droit ?
Alors, on est clairement dans une situation de rupture par rapport au droit d'asile, pas seulement au droit international à la Convention de 1951, mais aussi au droit d'asile européen et au droit d'asile des différents États membres qui sont signataires de la Convention de 51 et qui ont aussi des provisions juridiques concernant la protection des réfugiés dans leur propre constitution. Pourquoi ? Parce que le droit d'asile part de l'idée qu'on ne peut pas criminaliser pour le passage en situation irrégulière d'une frontière, quelqu'un qui demande l'asile. Par définition, une personne qui quitte son pays dans l'urgence sous le coup de persécution n'a que très rarement le temps et l'opportunité de demander un visa en bonne et due forme. Et considérant aussi l'ensemble des obstacles et des difficultés que l'on peut avoir pour obtenir un visa, même de courte visite hein, pour l'espace Schengen aujourd'hui, même la possibilité d'obtenir ce type de visa en vue de demander l'asile est extrêmement limitée. Donc un des points cruciaux de la Convention de 51, si on revient au texte, c'est de dire que les États signataires n'ont pas le droit de tenir pour criminel quelqu'un qui a franchi de manière irrégulière une frontière en vue de demander l'asile.
Et aujourd'hui, alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? À quel point, pour le dire comme ça, la rhétorique qu'on entend venir de certains pays européens, aussi bien autrichiens qu'aujourd'hui Italie, que CSU allemande encore, à quel point ce discours-là, il peut peser dans le futur sommet européen et dans, je le disais en introduction, une révision de ce fameux règlement de Dublin?
Alors, la rhétorique de ces partis politiques, elle pèse bien sûr sur les équilibres politiques au sein de l'Union européenne, elle pèse sur les décisions de politique publique à l'échelle nationale, mais je me permets de rappeler quand même que les pratiques en contravention avec le droit international qu'on observe de criminalisation des demandeurs d'asile, elles sont très consensuelles au sein de l'Union européenne. Par exemple, ce qu'on appelle la déclaration euro-turque de mars 2016 est un accord, enfin plutôt un échange de bons procédés entre l'UE et la Turquie qui permet d'expulser des demandeurs d'asile syriens vers la Turquie sous prétexte qu'ils ont franchi de manière irrégulière la frontière entre la Turquie et la Grèce par exemple. Donc en fait on a déjà, en dehors de toute considération sur l'extrémisme politique de certains groupuscules ou partis plus ou moins établis dans certains États membres, on a déjà un grignotage puissant du droit d'asile dans la pratique et dans des déclarations politiques. Alors encore une fois, cette déclaration n'a pas force de loi, ça n'est pas un traité, ça n'est pas une convention. Néanmoins, elle est appliquée. Contrairement à ce que dit l'Union européenne, cette déclaration n'a pas eu d'impact sur les flux, hein, il faut le rappeler, mais elle représente un grignotage du principe même du droit d'asile. Pour mémoire, ce qui a eu un impact sur les flux en provenance de la Turquie, notamment les flux de réfugiés syriens, c'est la fermeture unilatérale des frontières des différents pays des Balkans et de la Hongrie à ces populations. C'est-à-dire une autre irrégularité ou une autre contravention au droit d'asile, le fait que des pays de l'Union européenne, de manière unilatérale, ont ériger des murs et empêcher des demandeurs d'asile de rentrer sur leur territoire pour y demander l'asile.
Oui, cet accord qui prévoyait, pour le dire ainsi, donc rétention des migrants contre contrepartie financière de la part de l'Union européenne, puisqu'il s'agissait, je crois, à l'époque de 3 milliards d'euros d'aide à la Turquie.
Alors effectivement, on était dans le même type de logique que les échanges qui ont été proposés aux pays ACP, hein, aux pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire une contrepartie financière en échange d'une fonction de police des frontières. Mais je me permets de revenir, il ne s'agissait pas d'un accord qui concernait les migrants, mais vraiment un accord qui concernait le passage de frontières de toute personne, y compris les demandeurs d'asile, et en particulier les demandeurs d'asile syriens, puisque l'accord prévoit que pour tout demandeur d'asile qui aurait franchi régulièrement la frontière vers l'Europe et qui serait donc arrêté en Europe et expulsé vers la Turquie, l'Europe accepterait d'accueillir un réfugié syrien basé en Turquie. Donc c'est un dispositif très étrange d'échange de population qui part du principe que le demandeur d'asile syrien qui traverse irrégulièrement la frontière est un criminel, ce qui est exactement à l'opposé du contenu de la Convention de 1951.
Et vers quoi on s'oriente pour ces propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron, des hotspots, mais qui sont pour l'instant des missions de l'OFPRA, notamment au Niger et au Tchad, pour essayer de différencier sur place ceux qui pourraient prétendre à être demandeurs d'asile et ceux qui ne pourraient pas prétendre. Est-ce qu'on s'oriente vers des camps de rétention sur place? Pour l'instant, il n'y a rien en dur.
Pour l'instant, l'Union européenne est censée discuter de la création de plateformes régionales, qu'il s'agisse de hotspots ou d'autres dispositifs, quel que soit le terme. Donc on est vraiment dans la poursuite de l'externalisation de la gestion de l'asile. Encore une fois, il ne s'agit pas là de questions migratoires, mais de questions d'asile. Ce qui est, on peut le rappeler, en contravention aussi avec la Constitution française, qui stipule très précisément que la détermination du statut de réfugié doit intervenir sur le territoire national. Et beaucoup de constitutions européennes ont ce même dispositif. La seule exemption à l'ancrage territorial de l'asile, c'est la réception via les canaux de réinstallation du Haut Commissariat aux réfugiés de personnes qui ont été déclarées réfugiées par le Haut Commissariat aux réfugiés et qui s'inscrivent dans des programmes de réinstallation internationaux. Ce dispositif-là, qui est le dispositif de réinstallation du Haut Commissariat aux réfugiés, a le mérite d'exister et a le mérite de fonctionner plutôt bien, d'opérer à l'échelle internationale. Et le Haut Commissariat ayant une vision globale des flux de réfugiés et une approche, on va dire, beaucoup plus équilibrée, comme vous le mentionnez, de la répartition géographique de ces flux de réfugiés qui sont massivement dans les pays du Sud, des critères de détermination que l'on doit appliquer, il pourrait être un instrument très efficace, justement, pour externaliser l'asile, mais de manière légale.
Merci beaucoup pour aujourd'hui d'avoir répondu à nos questions. Hélène Tellez, chercheuse au CNRS Série Sciences Po, auteure de Migration en Méditerranée, et également vous vouliez renvoyer à ce dernier ouvrage du réseau Migre Europe sur les migrations.
Oui, l'Atlas des migrants en Europe.
Atlas des migrants en Europe, on mettra les références sur notre site de France Culture. Merci.
Merci à vous.